journal. Bonsoir Yves Decamp.
Bonsoir. Le début de la fin du débat sur la chloroquine, après une étude de la revue de référence The Lancet qui pointe la dangerosité du traitement dans son utilisation contre le Covid-19, le ministre de la Santé, Olivier Véran, demande à la Haute Autorité de Santé la révision des règles dérogatoires de prescription de ce médicament, qui est à l'origine un antipaludéen. La vie politique municipale au temps du Covid, des conseils municipaux à huis clos et des conseillers qui gardent leur distance. Les 30 000 communes de France où tout était joué dès le premier tour ont élu leur maire dans une première séance très particulière. La reprise des cérémonies religieuses à l'église, essentiellement, les mosquées ne seront pas rouvertes à temps demain pour la rupture du jeûne qui marque la fin du Ramadan. Dans ce journal également, des manifs en voiture en Espagne où l'extrême droite dénonce la gestion de la crise par le gouvernement de gauche de Pedro Sanchez. L'appel des éditeurs, auteurs et libraires au chef de l'État pour sauver la filière du livre. Les visites des musées en ligne qui n'ont jamais été si nombreuses en touchant un public beaucoup plus large qu'à l'habitude. C'est la vie connectée de Christine Siméon, avant la météo et Jean-Michel Golinski qui nous annoncera le retour d'un temps sec et globalement bien ensoleillé.
France Inter.
L'usage de la chloroquine avait été autorisé pour les cas graves de Covid-19. Il pourrait être complètement interdit et de nouveau réservé à ce pourquoi ce médicament antipaludéen avait été créé. Après la publication dans la revue scientifique The Lancet d'une étude mettant en garde sur les risques d'une utilisation inappropriée de la chloroquine, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a saisi le Haut Conseil de la Santé publique, Daniel Messager. Les règles dérogatoires de prescription de la chloroquine devraient être rapidement révisé.
Réuni en urgence ce week-end, le Haut Conseil de Santé publique a 48 heures pour rendre son avis. Aujourd'hui, l'hydroxychloroquine peut être prescrite à l'hôpital uniquement pour des cas graves et après décision collégiale. Dans les faits, au fur et à mesure que se multiplient les études sur son inefficacité et ses dangers, elle n'est plus si utilisée que ça. Elle fait aussi partie d'un essai clinique au sein de Discovery qui teste également des antiviraux et c'est pour le moment qui peine à avancer faute de malades. Alors est-ce la mort du médicament pour les malades du Covid? Vite peut-être. Avec des doses fortes de 400 à 600 mg chez des patients affaiblis par le virus, force est de constater que ça ne marche pas. En revanche, il ne faut pas négliger son utilisation dans cette maladie auto-immune qu'est le lupus, par exemple, et qui touche surtout des femmes jeunes, sans autre antécédent, à qui la dose prescrite est beaucoup plus faible. Aujourd'hui, même ceux qui défendaient l'hydroxychloroquine au prétexte qu'il n'y avait rien de mieux à proposer, comme le professeur Bricaire, ancien chef du service des maladies infectieuses de la Pitié Salpêtrière, reconnaissent qu'il est inutile d'insister. Le coup de grâce pourrait être porté, dans le cadre du Covid, dès demain.
Savoir si Donald Trump continuera d'en prendre dans les jours, tous les jours, comme il le disait récemment. Ce soir, 1665 malades sont en réanimation dans les hôpitaux de France. 36 de moins qu'hier. La baisse se poursuit donc tout doucement. S'agissant de la mortalité, la prochaine actualisation des données collectées par Santé publique France aura lieu lundi, en raison du pont de l'Ascension. Le mieux, en attendant, c'est encore et toujours le respect des mesures de protection que n'ont pas oublié ce samedi les conseils municipaux nouvellement élus et qui ne s'étaient pas encore réunis depuis le premier tour le 15 mars. Les 30 000 communes concernées avaient pris leurs dispositions en espaçant les tables façon salle de classe parfois, ou bien comme à Valence en se réunissant dans un amphithéâtre pour mieux garder les distances. Partout, les mesures nécessaires avaient été prévues pour une première séance à huis clos très particulière. Illustration à Pleurin dans le Morbihan. Benjamin Mathieu.
On entend, eh ben on va pouvoir démarrer.
Les 28 conseillers municipaux sont à bonne distance, chacun derrière une table, espacée d'au moins un mètre.
Le vote est clos, nous allons donc procéder donc à l'ouverture des bulletins.
Cindy Jacquet est l'une des assesseurs. Avant d'ouvrir les enveloppes, elle s'est méticuleusement lavé les mains au gel hydroalcoolique. Pas question de relâcher la vigilance pour cette infirmière libérale.
Je me dis qu'aujourd'hui, on a un déconfinement qui est présent, mais il faut tout de même rester sur ses gardes. Mais il ne faut pas non plus qu'on bloque tout, qu'on s'arrête aussi de vivre.
J'ai l'honneur de te remettre donc les chartes du maire de la commune de Plérin.
Et pourtant, petit moment de relâchement pour le maire Gilles Berlerot qui serre la main du doyen de l'assistance au moment de recevoir l'écharpe tricolore.
C'est exact, oui. Comme quoi, quand même, on garde aussi, on va dire, de l'humanité, bon, ce qui est aussi bien, mais c'est à ne pas faire. On y vient ici pour danser ou pour des spectacles de théâtre, pas pour faire un conseil municipal.
Pour le retour en mairie, il faudra attendre. Le premier véritable conseil se déroulera de nouveau dans cette même salle, début juin. À Pleurin, Benjamin Mathieu, France Inter.
À Tourcoing, à l'issue d'une séance à huis clos retransmise sur les réseaux sociaux, c'est le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin, qui a été élu. Il retrouve donc le poste qu'il occupait de 2014 à 2017, tout en restant au gouvernement, mais sans cumuler les traitements. Il annonce qu'il versera son indemnité de maire à la SPA. Elles auraient dû reprendre la semaine prochaine pour la Pentecôte. Le Conseil d'État en a décidé autrement. Les premières cérémonies religieuses depuis la mi-mars ont pu être célébrées ce matin dans les église qui s'y était préparée. Un arrêt du Conseil d'État avait demandé au gouvernement de lever les interdictions liées à la pratique des cultes. Un décret publié la nuit dernière détaille les règles sanitaires à respecter pour la sécurité des fidèles qui pourront donc, dès demain ou l'ont déjà fait, assister de nouveau à la messe. Plus difficile et plus longue, en revanche, sera la réouverture des mosquées qui ne seront pas prêtes demain pour la rupture du jeûne marquant la fin du Ramadan. Julie Pietri, le Conseil français du culte musulman avait prévenu le principe de précaution d'abord.
Nous ne voulons pas partir à l'aveuglette, explique Mohamed Moussaoui, le président du Conseil français du culte musulman. Même si des messes se sont déjà déroulées dans des églises en France aujourd'hui, il estime que trop peu de jours se sont écoulés depuis le déconfinement. Je ne veux pas, à la veille de la fin du Ramadan, prendre la responsabilité d'appeler les musulmans à retourner dans les mosquées. Une prudence affichée aussi, par exemple, par les autorités juives qui préfèrent ne pas voir de ruée vers les synagogues. Comparer les différents cultes et les choix face au virus n'a pas vraiment de sens. Insiste encore Mohamed Moussaoui. La prosternation sur un tapis, c'est, vous le comprenez, plus source de contamination que d'être assis sur une chaise. Installation de tapis individuels, de serviettes en papier, il nous faut du temps pour informer et préparer les gens. Par ailleurs, dans les mosquées, il y a 5 prières par jour et autant de désinfection à prévoir. Alors pour toutes ces raisons, le CFCM demande aux musulmans de célébrer la fête de l'Aïd à la maison demain avec les membres du foyer.
Voilà, ne pas aller trop vite et rester prudent, c'est ce que rappelle cette information venue d'Allemagne, où les médias rapportent qu'une quarantaine de personnes ont été contaminées au début de ce mois à Francfort à l'occasion d'un office religieux célébré dans une église protestante baptiste. Quelques jours après sa réouverture, 6 de ces personnes ont été hospitalisées. Un nouveau foyer épidémique en France également à Tours. Cette fois, 6 étudiants testés positifs dans une résidence universitaire. Ils ont été placés à l'isolement. Les 183 étudiants logés à la même enseigne ont été confinés le temps d'être testés. Les personnels du CROUS pourraient être également soumis au dépistage. Sur les plages, les règles sont plutôt bien respectées dans l'ensemble en ce week-end prolongé, en tout cas à Biarritz, si l'on en croit le maire Michel Venac, qui signale en revanche des difficultés sur les bords de mer à l'heure de l'apéro. Principalement, des amendes ont dû être dressées. On retrouvera les mêmes situations tout au long du littoral, difficile à contrôler. Exemple dans le Cotentin, à Saint-Val-la-Hougue, où parmi les visiteurs du week-end, certains ont fait probablement plus de 100 km, même s'il y a aussi et surtout beaucoup de locaux. Anthony Rimbaud.
Et sur les parkings qui bordent le port, c'est le 14 qui domine. Les Calvadosiens sont nombreux à avoir mis le cap au nord pour profiter du soleil du Cotentin. Une destination qui permet au passage de rentabiliser son passe-droit de 100 km. Stéphane arrive de Caen avec toute sa famille pour le week-end.
Ah oui, on est impeccable. On est pile, on a fait le calcul. On fait attention, on a envie de prendre l'air, ouais, c'est sûr. Ça fait un moment qu'on voulait faire Tatillou. On a loué là pour 2 jours, en famille, là, tranquille. Et puis profiter du beau temps.
Jocelyne et Denis aussi ont choisi la Manche pour un bain de soleil. Le couple est parti de Villers-Bocage.
C'est la première grande sortie de cette année. On attendait ça avec impatience.
100 km, oh là on est bien autour de 90.
Hein. 90.
On a vraiment la toute petite pointe en haut à gauche, à côté de Cherbourg, on peut pas aller. Croyez-en, un ancien routier.
Mais à Saint-Vin, on voit quand même défiler de drôles de numéros, des plaques d'immatriculation du Nord, d'Ille-et-Vilaine, d'Indre-et-Loire, et quand on demande aux automobilistes, tous jurent être aujourd'hui bien installés dans la Manche. Bluff ou pas, un seul finira par nous dire discrètement habiter en fait Rouen et avoir poussé le vol d'oiseau au-delà des 100 km pour voir de la famille. Mais à Saint-Val-la-Hougue, il y a un Parisien qui ne se cache pas.
Je suis arrivé juste avant le confinement, on a fui la capitale.
Mais après plus de 2 mois dans la Manche, Mathieu s'apprête à franchir la barre fatidique. Il rentre chez lui à Paris demain, une longue route de plus de 300 km.
Si c'est pour un motif impérieux, pas de problème. Pour inciter au respect de la distanciation, tous les moyens ne sont pas bons. Le préfet de Martinique a dû retirer l'illustration publiée sur les réseaux sociaux qui se voulait pédagogique, mais qui a surtout suscité la polémique au niveau voyez deux personnages, un noir et un blanc, distants d'un mètre. La distance étant symbolisée par 5 ananas. Racisme et néocolonialisme ont aussitôt tweeté, notamment beaucoup de représentants de la France insoumise. La Martinique, qui est surtout secouée depuis 24 heures par le déboulonnage de 2 statues de Victor Schœlcher, le jour même où l'île commémorait l'abolition de l'esclavage. Les 2 statues ont été vandalisées par des manifestants anti-héritage colonial pour qui Schœlcher n'est pas un sauveur. Le maire de France, Didier Laguerre, en dénonçant ces actes, appelle à ne pas céder à la tentation de réécrire l'histoire. À propos d'écrire, justement, ils sont 600 éditeurs, auteurs et libraires à signer une tribune sur le site du journal Le Monde. Antoine Gallimard, par exemple, ou le prix Nobel Patrick Modiano, tous en appellent au chef de l'État pour sauver la filière du livre mise en danger par l'épidémie. Pour eux, c'est carrément un effondrement qui menace aujourd'hui le secteur. Yann Bertrand.
Après la crise, le désenchantement, doute, inquiétude, stupeur, danger, péril, des mots forts qui se détachent de cette tribune comme un cri d'alarme lancé par plus de 600 noms du monde du livre. Les éditeurs qui auraient perdu 80% de leur chiffre d'affaires, les libraires à l'arrêt quasi total pendant le confinement, les auteurs dont certains n'ont aucune perspective, personne n'est épargné. Les pertes, selon les signataires, dépasseraient le demi-milliard d'euros. Alors il faut un plan de relance, d'ampleur, réclament en chœur Salman Rushdie, Patrick Modiano, Guillaume Musso, Antoine Gallimard, Karine Thuile, l'ancienne ministre Françoise Nyssen et tous les autres signataires. Des mesures avant l'été, des subventions, des prêts, des exonérations de charges, une politique résolue de soutien à l'offre. Aucune nation ne peut se passer d'avoir une âme, monsieur le président de la République, écrivent-ils, alors que les ministères de la culture et de l'économie travaillent à des mesures normalement annoncées la semaine prochaine. Le livre doit vivre, sauvez-le, concluent les signataires.
J'ai vu nos ventes diminuer de près de 90% du jour au lendemain pendant le confinement, explique aussi ce soir le directeur général des éditions Stock.
Il est 19h12 sur France Inter, la suite du journal, Yves Decamp.
À l'étranger, en Espagne, des manifs en voiture. C'est ce qu'avait imaginé le parti d'extrême droite Vox pour dénoncer la gestion de la crise par le gouvernement de Pedro Sanchez, tout en respectant les règles du confinement à Madrid ou Barcelone et les interdictions de se rassembler partout ailleurs. Dans toutes les grandes villes du pays, des milliers de véhicules ont bloqué les centres-villes, Mathieu de Taillac.
Les klaxons, c'est bien sûr la bande sonore de cette manifestation motorisée en plein centre de Madrid. Des voitures, des motos, de rares piétons, des drapeaux en pagaille, le tout derrière un bus à Impérial où est installée la direction de Vox, le parti de l'extrême droite espagnole. Tous les manifestants ne votent pas Vox, il y a aussi des électeurs de la droite classique. Le mouvement rassemble surtout des personnes hostiles au gouvernement qui ont rarement une idée très précise de ce que devrait être le déconfinement, mais qui ne supportent pas d'être dirigés par la gauche. Jesús, la soixantaine.
On doit se protester contre ce gouvernement qui a utilisé une crise sanitaire terrible pour imposer une politique qui va beaucoup plus au-delà de ce qui est vraiment la crise sanitaire. L'idéologie de Pablo Iglesias de Podemos, c'est une idéologie de contrôle, c'est une idéologie marxiste, communiste typique.
L'amalgame des mécontents de la crise sanitaire et des adversaires résolus du gouvernement, cela fait beaucoup de monde. Les manifestants mis dans des voitures, cela occupe encore plus d'espace. Succès d'image assez facile pour Vox donc, le seul parti politique à avoir convoqué une manifestation. Madrid, Mathieu de Taillac, France Inter.
L'Espagne qui rouvrira ses portes aux touristes en juillet, le plus dur est passé, a simplement commenté le Premier ministre Pedro Sanchez en annonçant également la reprise de la Liga, le championnat de football, le 8 juin. Au Portugal, ce sera le 3 juin. En Italie, où rien n'est encore décidé pour le calcio, ce sont les plages qui ont rouvert ce week-end, en partie, comme en France, de façon dynamique et sans possibilité de s'allonger pour la bronzette. En Chine, où aucun nouveau cas de contamination n'a été enregistré ces dernières 24 heures pour la première fois depuis la mi-janvier. La Chine veut penser, elle aussi, à la suite en évitant par exemple qu'un nouveau virus ne fasse son apparition. Un projet de loi prévoit de mieux encadrer et de façon permanente le commerce des animaux sauvages. Zifan Liu nous appelle de Pékin.
Après la propagation de l'épidémie sur le sol chinois, le pouvoir central interdisait fin février le commerce d'animaux sauvages destinés à la commercialisation. Une interdiction temporaire qui devrait être définitive, comme l'a annoncé le premier ministre Li Keqiang hier lors de l'ouverture du parlement chinois, précisant que le braconnage et la vente d'animaux sauvages seront sévèrement punis. Bien que Pékin continue d'entretenir le doute sur l'origine du virus, la communauté scientifique s'accorde à dire que le coronavirus se serait propagé depuis un marché sauvage sauvage de la ville de Wuhan, berceau de l'épidémie. En cause, le pangolin, un mammifère de la taille d'un chat, prisé pour ses écailles. Pour convaincre les éleveurs d'espèces protégées, les autorités locales vont aussi fournir des subventions et les inciter à se réorienter vers d'autres filières, comme la production de thé, par exemple. Pékin, Zifanyu, France Inter.
À Hong Kong, rien à voir avec le Covid, ce sont les militants pro-démocratie qui s'inquiètent d'un projet de loi sur la sécurité nationale que voudrait imposer le régime de Pékin. Un texte qui permettrait d'encadrer plus strictement, ce qui veut dire interdire, tout acte jugé séditieux ou terroriste. Malgré le contexte, un appel à manifester a donc été lancé pour demain. Florence de Changy à Hong Kong.
Dans le quartier très populaire et très animé de Mong Kok, samedi après-midi, l'ambiance semble normale. Des trottoirs noirs de monde, des longues queues aux arrêts de bus et devant les gargotes qui ont bonne réputation. Mais dès que l'on engage la conversation sur la décision annoncée par Pékin hier d'imposer des lois de sécurité, la colère et l'inquiétude s'expriment. Jonas, 28 ans, rappelle que la démocratie est une promesse faite à la jeunesse de Hong Kong, promesse inscrite dans la Basic Law, la mini-constitution.
Je pense que la loi de sécurité nationale va anéantir nos valeurs et notre génération.
Johnny Lau, un ingénieur de 42 ans, est tout aussi révolté.
Ce n'est pas acceptable du tout. C'est une insulte au haut degré d'autonomie garanti à Hong Kong. Demain, je vais manifester. On doit résister, montrer que l'on n'a pas peur. On doit protéger nos droits.
La manifestation de dimanche sera doublement interdite pour cause d'épidémie du Covid-19, même si celle-ci est quasiment finie depuis plusieurs semaines. Hong Kong, Florence de Changy, France Inter.
Retour en France avec les grands musées qui n'ont pas encore rouvert, mais qu'à cela ne tienne, on peut quand même les visiter en ligne. Beaucoup d'ailleurs l'ont déjà fait depuis le début de l'épidémie. Les musées ont fait beaucoup d'efforts en direction des réseaux sociaux et ils ont su toucher un très large public. Bonsoir Christine Siméon.
Bonsoir.
Dans votre vie connectée, vous nous avez souvent parlé des visites virtuelles au musée ou des MOOC. Et voilà qu'aujourd'hui, confinement oblige, toutes ces pratiques sont devenues presque normales et habituelles.
Au moment où ils ont dû fermer leurs portes, voilà que les musées ont rencontré encore plus d'internautes sur les réseaux. Ils se sont donné du mal d'ailleurs en proposant des défis, des visites virtuelles, des conférences en live sur Facebook ou sur Instagram. Bref, l'offre a été forte et elle a trouvé à qui parler. Qu'on en juge, le site du musée d'art contemporain de Lyon a vu son audience multipliée par 4, l'écoute des podcasts de la RMN Grand Palais a été multipliée par 10. Son offre « Pompéi chez vous » a recueilli 1 million de visites. Très intéressant, ces visiteurs en réseau ne sont pas uniquement les visiteurs physiques, ni les internautes habituels. Exemple avec les constatations faites par Roy Amit, le directeur du numérique pour les expositions du Grand Palais.
Je trouve que ça, c'est très intéressant. Vous voyez, par exemple, on voit que plus que 70% de nos internautes vient hors Paris et l'Île-de-France. C'est très intéressant parce que quand on regarde nos expositions, c'est l'inverse. Les expositions physiques, c'est plutôt 70% qui sont des franciliennes. Tant que là, on couvre de manière très homogène l'ensemble des territoires.
Voilà, Paris a donc parlé aux régions et réciproquement des musées en région ont capté l'attention des internautes dans d'autres territoires. Ce phénomène s'est doublé d'une accentuation de ce qu'on appelle la gamification, cette façon ludique de faire circuler ses contenus.
Le summum ayant été en la matière le mariage entre Animal Crossing, le jeu vidéo, et le Muséum d'Angers. Un vrai conférencier du musée a commenté les fossiles présents dans le jeu. Ces phénomènes pourraient in fine rajeunir un peu l'audience des musées et capter un plus grand nombre parmi les 18-25 ans. Écoutez Frédéric Durand de Smart Apps. Cette société est experte en solutions numériques pour les musées.
On sait qu'il y a des jeunes qui pouvaient aussi chercher à occuper leur temps. Et clairement, il y a eu un besoin qui a été exprimé. Et du coup, une partie de ping-pong entre les institutions et ce nouveau public. Mais là-dessus, il y a quelque chose, effectivement, une impulsion qui a été renforcée avec le confinement et qu'il faut entretenir.
L'histoire a donc prouvé ici que le numérique, s'il ne remplacera jamais l'émotion d'une visite physique, désacralise complètement les œuvres et renouvelle complètement l'offre des musées et des institutions culturelles.
Christine Siméon et sa vie connectée à retrouver bien sûr sur franceinter.fr.
Merci beaucoup pour ce journal. Yves Decamp, dans un instant le temps.
La météo avec la Fondation de France, la PHP et l'Institut Pasteur.
qui unissent leurs forces pour aider les soignants, les chercheurs et les personnes vulnérables. Tous unis contre le virus sur fondationdefrance.org.
Les prévisions de Jean-Michel Golinski.
Excepté sous les orages du centre-est, il n'a pas beaucoup plu aujourd'hui et à partir de demain, nous allons repartir vers une période de temps sec avec tout de même encore demain quelques ondées mais seulement sur le piémont est des Pyrénées. Ailleurs, généralisation d'un temps sec, voilé l'après-midi au sud de la Garonne, mais d'une manière générale très ensoleillé au sud de la Loire et dans l'est, mais avec un mistral toujours assez sensible. Dans la moitié nord du pays, le ciel plus variable va alterner entre éclaircies et nuages, avec toujours un vent d'ouest assez turbulent dans le détroit du Pas-de-Calais. Les températures nocturnes seront proches de 15 degrés près de la Méditerranée, de 10 ailleurs. L'après-midi hausse partout des maxima vers 20 degrés en moyenne dans la moitié nord. Il fera 20 à 23 en Rhône-Alpes et 23 à 28 sur les régions méridionales.
Merci Jean-Michel Golinski de Météo France.